en direct d'Hong Kong.
Député de la 11e circonscription des Français établis hors de France, circonscription qui regroupe l'Asie, l'Océanie et l'Europe orientale, soit 49 pays. Député donc depuis 2017 sous l'étiquette LAREM, réélu en 2022 sous l'étiquette Renaissance. Anne Genté est vice-présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, secrétaire de la Commission de la Défense et des Forces armées, présidente de la délégation parlementaire française à l'OTAN. Anne Genté, bonjour.
Bonjour Katia.
Alors, vous êtes à Hong Kong.
Alors, Hong Kong, ça fait 4 ans que je n'y étais pas venue. 4 ans interrompus par la crise Covid essentiellement, qui rendait les déplacements impossibles. Et puis ensuite, une situation à l'Assemblée de majorité relative qui fait que nous sommes très présents avec une obligation de présence extrêmement importante et qui fait que du coup, les possibilités de déplacement sont réduites. Et donc, il fallait trouver le bon créneau au moment où l'Assemblée suspend ses travaux. C'est le cas de ce mois de janvier. Et puis, je souhaitais également, symboliquement, pour tout un tas de raisons, pouvoir d'abord effectuer un déplacement en Chine continentale, ce que j'ai fait au mois de décembre avec le groupe d'amitié. J'étais à Shanghai, Suzhou et Pékin. Et ensuite venir à Hong Kong, premier déplacement après la Chine.
Alors justement, vous parliez de l'Assemblée. Quel est le retour de déplacements comme celui-ci ?
D'abord, je dois dire qu'à l'Assemblée, sans aucune prétention, très très peu de parlementaires connaissent convenablement ou de manière acceptable l'Asie et en particulier la Chine et Hong Kong, mais vraiment très très peu. Et il y a une méconnaissance dans un contexte dans lequel l'image de la Chine est fortement abîmée. J'essaye de les informer, de leur montrer la réalité de ce qu'est la Chine au-delà de ce que la presse peut en dire et essayer d'être la plus précise possible. Et puis, je tiens toujours à leur montrer aussi à quoi servent nos communautés françaises.
Est-ce que justement vous êtes entendu à l'Assemblée sur les questions spécifiques des Français de l'étranger ?
Alors, nous sommes en janvier. Si vous avez écouté le discours du président le soir du réveillon, comment a-t-il commencé son discours, mes chers compatriotes de France, d'outre-mer et de l'étranger ? Et ça, j'ai la fierté de dire que c'est depuis 2 ans, parce que j'avais écrit un courrier au président en lui disant « Monsieur le Président, vous devez aussi saluer tous ces Français qui sont à l'étranger ». Alors, c'est peut-être anecdotique, mais ça compte. Et aujourd'hui, je peux dire que mes collègues qui sont députés d'Eure-et-Loire, des Pyrénées-Atlantiques, que sais-je, quand on leur parle d'un des députés français de l'étranger, ils savent que nous avons une situation particulière, des besoins particuliers, des attentes spécifiques, et ils ne sont plus comme il l'était quand je suis arrivée en 2017 à dire « Oh non, mais attendez-vous, de toute façon, vous avez quitté la France, vous l'avez fui. Oui. » Et donc, j'ai maintenant très nettement une oreille attentive. Par exemple, une petite anecdote, là, je suis sur des sujets logement. Eh bien, quand je suis allée voir ma collègue qui est en charge d'une mission sur le logement en France, elle a pris en note toutes mes demandes et j'espère bien que mes demandes seront intégrées à ses propositions. Donc, on est vraiment entendu maintenant.
On a le festival d'Harbin en Chine qui a accueilli notamment une réplique de Notre-Dame de Paris dans le cadre des 60 ans des relations diplomatiques avec la Chine. Est-ce que vous estimez qu'une initiative comme celle-là peut aider à faire revenir les touristes chinois en France ?
Alors, c'est aussi pour souligner que le 8 décembre 2024, la cathédrale Notre-Dame de Paris sera inaugurée, sera réouverte au public. Oui. Donc c'est très attendu et par les Français et je pense par un certain nombre de touristes étrangers, dont les Chinois. Maintenant, l'absence des touristes chinois en France, il n'y a pas qu'en France, il y a d'autres pays qui sont impactés par le fait qu'ils ne voyagent plus beaucoup, en tout cas beaucoup moins qu'avant le Covid. Donc j'espère que ce déplacement pourra contribuer à leur donner une envie de France, mais j'espère aussi qu'il y aura beaucoup d'autres déplacements ministériels ou parlementaires pour donner une envie de France à des touristes chinois.
Alors, je vais revenir sur la Fédération des Français de l'étranger de Renaissance, Fédération où vous avez été à la tête pendant un moment. On a eu les élections sénatoriales qui n'ont pas été à la hauteur de ce que vous estimiez comme résultat. On a eu des dissidences. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment ça se passe aujourd'hui au sein de cette fédération ? Quelle est son action ?
Alors, une fédération comme dans tous les partis politiques qui essaie de réunir des militants et de les sensibiliser au projet politique que nous portons, qui est celui initié par le président Emmanuel Macron en 2017, et puis auquel il faut que nous donnions d'ailleurs une postérité, ce à quoi nous travaillons avec l'ensemble des fédérations. C'est la 3e fédération de Renaissance avec 1200 adhérents. Maintenant, la difficulté que je pense tous les partis politiques rencontrent, c'est que nous sommes très dispersés. Nous ne pouvons pas aller tracter sur les marchés comme le font nos collègues en France. Donc ça rend les choses difficiles. Dans des pays, parfois, je pense qu'Hong Kong peut en faire partie, où il est difficile de faire de la politique qu'il y a nos pays. Hein. Le pays regarde toujours de manière devient un peu méfiante le fait qu'on puisse traiter et débattre de sujets politiques. Donc c'est pas facile non plus de faire une réunion publique politique. Tout ça rend le militantisme à la fois très différent et très difficile parfois, mais c'est un enjeu très important. C'est toujours difficile quand on est dans un parti de la majorité, de toute façon, de militer. Ça, c'est vrai également en France. C'est plus facile de militer quand on est dans l'opposition que quand on est dans la majorité. Alors, s'agissant de cette fédération, qui en effet a connu, il faut le dire, 3 listes dissidentes pour les sénatoriales, une perte d'un siège à 5 voix près. Donc, l'idée, c'est de comprendre. J'ai été mandatée par le délégué général Stéphane Séjourné pour essayer d'analyser ce qui s'était passé, faire des propositions. Et les propositions sont de deux natures. La première, c'est plus de dissidence aux prochaines élections. Mmh. Et la deuxième, c'est gagner des élections. Parce que finalement, c'est comme l'objectif d'un parti politique. Donc, ma mission était claire. Donc, il y a une réflexion qui est menée pour, oui, il faut le dire, apporter plus de transparence, de clarté dans la manière dont les choix sont opérés. Car il y a eu une incompréhension persistante qui a conduit des candidats à rester dans la dissidence. Il y a eu un manque de souffle politique, je pense, que nous avons besoin parlementaires, et je balaye devant ma propre porte, de nous investir peut-être beaucoup plus dans ce projet politique. Et c'est vrai que nous sommes très accaparés par le travail à Paris, c'est exact. Pour autant, le travail de militantisme de base a certainement manqué. Donc voilà, donc c'est tout ça à quoi je réfléchis. Je vais faire un certain nombre de propositions que je dois soumettre à notre délégué général Stéphane Séjourné, qui ensuite arbitrera parmi ces propositions. Et ça sera fait courant janvier.
On va revenir sur les questions des Français et l'étranger, plus particulièrement sur la fiscalité. Ça a été votre cheval de bataille dès votre premier mandat. Vous avez, à l'époque, eu cette idée de réinjecter, vous disiez, une équité de traitement. On en est où aujourd'hui ?
Là, il s'agissait à l'époque des revenus de toute nature, revenus du particulier, car il y a en effet une différence de traitement entre le non-résident et le résident fiscal, et c'est le cas en France, c'est pas forcément le cas dans tous les pays. Il y a des pays, lorsque vous franchissez la frontière, la fiscalité à laquelle vous êtes soumis sur vos revenus dans le pays que vous quittez, votre pays de résidence, la fiscalité ne change pas quand vous traversez la frontière. La France, il se trouve qu'elle change. Et en plus, elle est assez compliquée. Donc j'avais formulé un certain nombre de propositions. Ces propositions se sont révélées, une fois que je les ai posées sur la table, et je le dis en toute transparence, il y avait des effets de bord qui n'étaient pas acceptables, et donc il ne fallait pas continuer dans cette direction-là. Maintenant, il y a d'autres sujets de fiscalité qui nécessitent d'y réfléchir. Il y a les fameux prélèvements sociaux sur les revenus de patrimoine immobilier, qui reste une inéquité de traitement profonde entre aujourd'hui les Européens et les non-Européens. Voilà. Donc on est vraiment maintenant sur un système qui devient encore plus difficile à justifier, qui nécessite pour moi encore plus qu'on réfléchisse à une forme d'équité de traitement. Aujourd'hui, je le dis aussi en toute transparence, j'ai un blocage très net du côté des autorités de Bercy qui ne veulent pas entendre parler d'un alignement et d'une équité de traitement. Et je l'ai dit à tous les interlocuteurs que j'ai et à des avocats fiscalistes avec lesquels je continue à travailler. Pour moi, le seul moyen d'avancer, c'est d'envisager une action de groupe menée par des avocats chevronnés et tenaces pourrait faire aboutir le sujet. Par la voie législative, la probabilité d'aboutir est aujourd'hui nulle.
Alors, on a un autre sujet qui revient assez régulièrement sur la création de la résidence. Alors, une fois d'attache, une fois de repli.
La résidence de repli, c'était une idée qui avait été injectée à la demande de propriétaires d'un bien immobilier en France de non-résidents fiscaux qui laissent vide. C'est souvent un bien dans lequel on vient passer ses vacances ou habiter en France. Et puis, c'est aussi le bien, d'ailleurs, dans lequel reviennent les Français qui doivent rentrer brutalement. Cette taxation à la taxe d'habitation à résidence secondaire, dans un certain nombre de communes où l'immobilier est tendu, est surtaxée par la commune. Et là déjà, je pointe du doigt, c'est un impôt local. C'est pas une décision de l'État et encore moins du législateur que je suis. Cette surtaxation, pour y échapper, il faudrait que la commune veuille bien la diminuer. Sur quels critères ? Alors, on pourrait imaginer, on va créer le concept de résidence de repli pour que la commune s'en saisisse et dise « Vous êtes résident à Hong Kong, eh bien, je vous dispense de payer cette surtaxe ou je vous la diminue. » On peut le faire, on peut créer le concept juridique. Mais derrière, soyons réalistes sur la probabilité que ça aboutisse, parce que si on a deux voisins qui sont à l'île de Ré, l'un qui vient de Belfort et l'autre qui vient de Hong Kong, qui ont tous les deux la même maison, tous les deux vides, c'est leur résidence secondaire. Et puis le petit copain de Hong Kong, il dit « Ah, moi j'ai pas de surtaxe parce que je viens de Hong Kong. » Et celui qui vient de Belfort dit « Moi j'habite Belfort, je paye mes impôts, j'ai une surtaxe. » Où est l'équité là pour le coup ? Il y en a pas. Donc je crois que partir dans cette direction-là, c'est un peu compliqué. Maintenant, définir le concept de résidence de repli, on avait pensé par exemple que certaines communes pourraient s'en saisir pour dire « vous venez de Hong Kong, je vous donne accès aussi au centre aéré pour vos enfants, ou je vous donne accès à un tarif préférentiel pour la bibliothèque municipale. » Pourquoi pas ? Libre choix aux communes de se saisir du concept ou pas. Oui. Après tout, on peut définir le concept et il est dans les cartons. Et il n'y a pas besoin d'un véhicule législatif. Enfin, il faut juridiquement lui donner un contenu. Ouais. Et ça, c'était l'idée, c'était de le poser. Pour le moment, on a un problème d'encombrement législatif pour faire passer ce concept, sauf peut-être dans une loi logement, à voir. Mais moi, je pense qu'on peut encore définir le concept. Maintenant, il y a un autre point sur lequel ce concept pourrait être utile, et moi, j'y travaille, c'est de dire, aujourd'hui, nous avons, à l'inverse, des non-résidents qui sont propriétaires et qui ont mis leurs biens en location. Puis un jour, catastrophe là où ils sont, il faut qu'ils rentrent brutalement en France. Et là, ils ne peuvent pas récupérer leur logement, il y a un locataire dedans. C'est une vraie difficulté, ce sont des gens qui, surtout s'ils n'ont pas de gros revenus, peuvent se retrouver à bénéficier ou à pouvoir postuler à un logement social ou à une aide sociale. Et donc, il faudra simplement leur donner accès à leur logement plus vite. Donc, est-ce qu'on pourrait proposer aux non-résidents fiscaux qui ont un bien immobilier qu'ils veulent mettre en location que dans leur cas particulier, parce qu'ils ont opté pour un statut de résidence de repli pour un premier bien, et lui dire bah, vous pouvez proposer un bail différent d'un bail de location vide classique, qui sera un bail peut-être un peu précaire, mais qui vous permettra de récupérer votre logement plus rapidement que les baux classiques.
Un autre sujet, la mobilité internationale. Mmh. Vous avez été l'auteur d'un rapport remis à l'époque à Édouard Philippe, lorsqu'il était Premier ministre. Vous aviez 215 propositions. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été déployées. Alors, les 215, pourquoi il y en avait autant? Parce que certaines étaient extrêmement pointues, précises, et j'étais allée dans le détail pour qu'on ne me dise pas après que je n'en avais pas parlé dans le rapport. Je vais donner un exemple, puisqu'on est au consulat de Hong Kong. Et j'avais noté, en me déplaçant partout, que les appels téléphoniques au consulat, maintenant, sont très difficiles, par manque de personnel, de moyens humains. Et donc, j'avais proposé cette plateforme qui permettait, par l'utilisation de l'outil numérique, d'appeler un numéro qui semble être à Hong Kong, mais qui nous bascule sur un numéro en France où on a tout un tas d'opérateurs qui répondent. Ce système qu'on appelle France Consulaire a été déployé sur un certain nombre de pays européens. Alors le Covid a un peu ralenti le déploiement. L'objectif, c'est bien d'en faire le bilan et de voir à le déployer sur l'ensemble du monde. Et donc l'idée derrière, c'est où que vous soyez dans le monde, vous avez besoin d'appeler un consulat, vous aurez quelqu'un au téléphone aux heures ouvrables, hein, sachant que l'opérateur qui va prendre l'appel en France pourra déceler à la manière dont un SAMU filtre les appels, les urgences pour lesquelles, attention là, c'est pas moi en France qui vais résoudre le problème, c'est la cellule d'urgence à Hong Kong vers laquelle je bascule parce que j'en ai le numéro. Ouais. Et je l'aurai directement, et la cellule de Hong Kong pourra...
C'est un filtrage.
C'est un filtrage. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus efficace pour les Français et plus efficace aussi pour nos postes.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2024?
Pour l'ensemble des Français que nous sommes, c'est un pays apaisé, un pays qui se parle, qui s'écoute. On peut avoir des opinions différentes. Et c'est enrichissant d'avoir des opinions différentes. Mais bon sang, qu'on s'invective pas, qu'on s'insulte pas, y compris sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est pas du tout ce que les Français veulent. Puis j'ai envie d'une France compétitive, une France qui gagne. Quand je parle à des étrangers sur toute ma zone et que je leur dis, au fait, la France, ça vous dit quoi, vous? Et quand ils me disent, la France avec vous, vous êtes fiables, vous êtes loyaux, vous êtes créatifs. Mais c'est pas magnifique, ça? Ouais. Alors, pour 2024, je nous souhaite à tous d'être fiables, loyaux, créatifs et allez la France.
Merci beaucoup, Anne Genté.
Merci à vous.